Je vais reprendre pour terminer, parce que je ne l'ai pas fini, cette série de messages sur les idoles, hein, les idoles de notre cœur. Je m'appuie en partie sur ce livre, bien sûr sur la parole de Dieu, mais ce pasteur qui est actuellement à New York, Timothy Keller, ses livres sont en français, enfin pour certains, donc ceux qui veulent se le procurer, vous pouvez le procurer, ça s'appelle « Les idoles du cœur ». Il écrit d'autres livres aussi, en fait il écrit sur la culture de notre temps. C'est important de connaître notre culture pour savoir comment nous pouvons échapper justement aux pièges de l'ennemi dont on parlait tout à l'heure, les pièges qui sont toujours très insidieux, on ne s'en aperçoit pas, et donc il a vraiment cet art de mettre la main ou le doigt, je dirais, sur ces pièges, et c'est vraiment une très grande bénédiction d'être au bénéfice de ce genre de ministère. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans Exode. Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Alors Dieu, verset 1er. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Juste un aparté pour dire que ces paroles donc ont été prononcées sur le Sinaï, hein, sur le mont Sinaï, devant Moïse, hein, qui était le prophète de Dieu, que Dieu a utilisé pour sortir le peuple de l'Égypte. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Tu ne te feras pas de statue ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre, de ce qui est dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elle et tu ne leur rendras pas de culte. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la troisième et jusqu'à la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui usent de bienveillance jusqu'à 1000 génération envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Une deuxième lecture qui se trouve dans Actes des Apôtres, Actes chapitre 15, je crois. Non, c'est chapitre 17, pardon. C'est Paul, donc là c'était Moïse, maintenant c'est Paul, dans le Nouveau Testament, verset 16, 17-16. Comme Paul les attendait à Athènes, il avait en lui-même l'esprit exaspéré en contemplant cette ville vouée aux idoles. Vous voyez, là ça nous révèle aussi une réalité que l'enfant de Dieu, un enfant de Dieu, que nous sommes, hein, quand on est en présence de choses spirituelles mauvaises, notre esprit le ressent. Vous voyez, ça passe pas par la raison, ça passe par le ressenti de l'esprit. Hein. Et Paul, dont son esprit était exaspéré en contemplant cette ville vouée aux idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et ceux qui craignaient Dieu sur la place publique chaque jour, avec ceux qu'il rencontrait, etc. Et ensuite, après, il prononce plus tard un discours, et il dit au verset 22, « Athéniens, je vois que vous êtes à tous égards extrêmement religieux, car en passant, j'ai observé tout ce qui est l'objet de votre culte. Et j'ai même trouvé un autel avec cette inscription « À un Dieu inconnu ». Et ensuite, après, il parle justement sur, à partir de ce qu'il a vu dans Athènes, il parle sur ce sujet pour introduire le message de Jésus-Christ au verset 31 où il leur dit, voilà, Dieu a fixé un jour pour juger le monde selon la justice par un homme qu'il a désigné, et il a donné tout pouvoir et toute à tous la foi en la résurrection d'entre les morts. Là, ils ont arrêté d'écouter parce que ça ne correspondait plus à leur vision des choses. Et donc là, Paul a été arrêté dans ce discours. Ces deux passages, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, montrent à quel point l'idolâtrie est présente et que c'est, comme disait Luther, il disait que c'est la racine, que la racine de tout péché se trouve dans l'idolâtrie. La racine de tout péché. Vous voyez, moi j'aime bien faire le jardin, etc., mais c'est extrêmement sollicitant, hein, parce qu'il faut toujours être... si vous ne faites rien, les mauvaises herbes, ça pousse. Hein. Il y en a qui ont déjà fait du jardin ici. Il faut tout le temps être derrière si on veut que ça soit propre. Hein. Et ça, c'est le péché. Hein. Le péché qui est là, eh bien, il fait toujours repousser les mauvaises herbes. Toujours. Hein. Même en étant chrétien. Hein. Nous serons débarrassés que lorsque le Seigneur reviendra et que notre corps sera changé, sera transformé. Donc pour l'instant, nous vivons en espérance, hein, dans ce salut que nous avons reçu, mais nous avons affaire à des mauvaises herbes, et c'est le péché. Et le péché, même s'il a été traité à la croix du calvaire, il a des effets secondaires dans notre vie, et notre chair que nous avons gardée, eh bien, elle produit des racines mauvaises. Enfin, elle est dans des racines mauvaises et elle produit des mauvais fruits. C'est pourquoi dans Galates, dans cet enseignement qui nous dit marcher par. Ah, merci pour ceux qui ont fait le TQP. Mais ceux qui ne l'ont pas fait, c'est valable aussi. Hein, c'est le torrent qui purifie. Marcher par l'esprit. C'est la première leçon, hein, qu'on apprend dans le torrent qui purifie. Marcher par l'esprit. Alors ? Vous marchez par l'esprit ? Tout le temps ? Non. Toujours ? Non. On s'efforce. Voilà, on s'efforce. C'est pour ça que nous sommes tous en chemin, dans un chemin. Nous sommes tous à la même enseigne. Nous devons marcher par l'esprit, mais nous ne le faisons pas toujours. Je vois là... Elle rigole parce que... Vous avez écrit un livre, hein, « Marcher par l'esprit », avec Élie, hein, Denise. Voilà. C'est vrai que c'est la base de notre marche avec le Seigneur, marcher par l'Esprit. Et ça, c'est pas simple, parce que c'est comme dans le jardin, il faut toujours recommencer, les mauvaises herbes poussent toujours, et voilà. Et donc, mais ça, c'est la vie du disciple. C'est notre vie de disciple. Si nous avons reçu le salut, si nous apprécions le salut que nous avons reçu, eh bien, nous allons marcher par l'Esprit, et nous allons nous convaincre tous les jours de marcher par l'Esprit. Et comme le disait Luther, la racine de tout péché se trouve dans l'idolâtrie. Pourquoi ? Parce que si Dieu a donné 10 commandements, et qu'il a commencé par le premier commandement et le deuxième commandement, c'est que c'est les plus importants. Le premier commandement, c'est « Je suis l'Éternel », donc l'Éternel Dieu, Yahvé, hein, Yahvé, celui qui est, de toute éternité, c'est le seul Dieu qui est, qui existe, et qui est celui qui dure dans l'éternité, qui a l'identité, qui nous donne son identité, celui qui est, qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Et aujourd'hui, on peut le transférer dans le Nouveau Testament en disant celui qui nous a fait sortir de notre état de péché, notre état de servitude, de notre état d'esclavage. Et le deuxième commandement, donc premier, tu le serviras, tu lui rendras un culte. Et deuxième, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça veut dire que le fait d'avoir d'autres dieux devant ma face, c'est quelque chose qui est naturel à chacun d'entre nous. Ouais. Moi, j'ai pas compris ça alors que j'avais déjà 20 ans de conversion. Je me suis converti en 67. Et puis, en 98, moi, plus que ça, presque 30 ans, 98, j'ai dit au Seigneur, mais Seigneur, pourquoi est-ce qu'il y a tant de problèmes dans l'Église ? Pourquoi il y a des difficultés, etc. Et le Seigneur m'a dit, c'est parce que, à cause de l'idolâtrie. Alors, j'étais choqué. J'ai dit, quoi, Seigneur ? L'idolâtrie ? là, tu te trompes là. Vraiment, j'ai discuté avec le Seigneur. Pour moi, l'idolâtrie, ça n'existait que dans les pays en voie de développement. Vous voyez, en Afrique, ailleurs. Bon, je savais que, bien sûr, dans l'Église catholique, il y a de l'idolâtrie à cause des statues. Et comme j'étais catholique, mais j'avais renoncé au catholicisme et tout ça, pour moi, c'était. Je venais plus devant les statues et tout ça. Pour moi, l'idolâtrie n'existait pas. En tout cas, pas pour les évangéliques que j'étais. Et le Seigneur m'a dit, non, c'est à cause de l'idolâtrie. Alors je dis, alors Seigneur, là, je suis à ton école, il faut que tu m'apprennes ce que c'est que l'idolâtrie. Et j'ai mis, presque 20 ans à essayer de comprendre ce que c'est que l'idolâtrie. Or, si vous voulez, c'est quelque chose qui est attaché à notre être intime, à notre âme. Et Timothy Keller d'ailleurs le dit, je crois que c'est pas le seul, et il s'appuie sur d'autres qui disent que notre cœur, vous voyez, le cœur c'est pas celui qui bat, le cœur biologique, c'est notre être le plus profond, nos pensées, nos sentiments, notre volonté, notre être, donc notre cœur. La Bible hébraïque parle du cœur. Le cœur est une fabrique d'idoles. Donc vous voyez, c'est un peu comme chez Renault, les voitures elles sortent, c'est une fabrique d'idoles. Donc une fois qu'elle est sortie, il y en a une autre qui se refabrique. Vous voyez, et ce qui fait que le combat contre l'idolâtrie est un combat qu'on aura jusqu'à notre mort. Vous voyez, même si nous avons éliminé toutes les idoles, on va penser les éliminer, mais nous ne pourrons jamais les éliminer, et se refabriquer. Vous voyez, bien sûr, elles sont moins puissantes, parce qu'on arrive à les déceler plus facilement et à les éradiquer dans le nom de Jésus. Mais elle se fabrique. Elle se fabrique dans notre cœur. Et comment est-ce qu'elle se fabrique dans notre cœur? Elle se fabrique à cause du péché, comme je l'ai dit, qui a commencé avec celui qui nous a donné la naissance, Adam et Ève, qui sont ceux qui ont produit cette race dans laquelle nous sommes, la race humaine. Et au moment où justement ils ont été séduits par cet être qui s'est présenté comme un ami, alors que c'était un voleur, qui a dit non, le Seigneur n'a pas dit tu ne mangeras pas. Donc il a contredit la parole de Dieu, mais il était tellement beau, sa parole était tellement séduisante qu'ils sont tombés dans le panneau et qu'ils ont désobéi à la parole de Dieu. Et à partir de là, eh bien, leur nature ne s'est plus tournée vers Dieu naturellement, elle s'est tournée vers eux-mêmes, parce qu'il a dit, vous serez comme des dieux, vous serez autonomes, vous pourrez régler vos affaires vous-même, vous pouvez... Vous voyez, et ça, c'est le rêve de l'humanisme dans lequel nous sommes, qui a recommencé en Occident à prendre de l'essor à la Renaissance au XVIe siècle avec les humanistes. Et ensuite, après, c'est allé dans le domaine politique avec la Révolution française et maintenant avec la Révolution de mai 68. Il y en a qui ont vécu la Révolution de mai 68 avec les pavés qui volaient dans tous les sens. Voilà, il y a encore des vieux combattants comme moi qui étaient là. Et c'est à ce moment-là que je me suis converti, d'ailleurs. C'est pour ça que je me rappelle bien de cette époque-là. Ça volait partout, mais moi, j'étais avec le Seigneur. Mais mai 68 a amené une révolution. C'est la révolution des mœurs. Révolution française, c'est la révolution politique. On a changé de régime, on est passé du régime monarchique au régime démocratique. Et en mai 68, on a changé de régime de mœurs. Ça m'a toujours amusé parce que je ne connaissais pas cette anecdote. Vous voyez, les jeunes qu'on était de l'époque, enfin de ma génération, ils ont dit « Ah, c'est pas possible que ceux qui gouvernent et nous gouvernent... » Il paraît que Madame de Gaulle, comment elle s'appelait, Yvonne, là, tout le monde connaît Yvonne, Yvonne qui était assise dans sa déesse derrière son mari, ou non, à côté de son mari. D'ailleurs, ils ont été flingués à Clamart, un petit Clamart. Ils les ont loupés. Et puis, ce qui l'a préoccupé, c'était parce qu'il avait ramené des vacances des poulets. Et il a dit, Oh, les poulets. Alors, les policiers à côté, ils pensaient que c'était eux qui étaient touchés. Est-ce que les poulets sont touchés? Ben non, elle a ouvert le coffre. Ben non, ils sont vivants. Voilà. C'était la petite anecdote. Les poulets dans le coffre étaient vivants. Bon, les policiers, ils disaient... Ben, il paraît que quand elle passait devant une affiche qui lui plaisait pas, et là, le lendemain, à l'Élysée, elle dit, vous enlevez les affiches. Des affiches ben, de l'époque, vous voyez, c'est pas des affiches de maintenant, hein, ça fait... Mais voilà, les gens du commun, du mortel comme nous, ils voulaient plus que les politiques se mêlent des mœurs. Nous, on fait ce qu'on veut. Et à l'époque, dans le métro parisien que je prenais, c'était marqué, il est interdit d'interdire. Il est interdit d'interdire. Vous voyez, c'est pour ça que toute l'autorité était remise en cause à ce moment-là et que les fondements de la société ont été ébranlés jusqu'à aujourd'hui parce qu'on se tourne vers l'individu. On élève l'individu au stade de Dieu. Hein. L'individu a le droit de tout faire. Personne n'a le droit de me dire ce que moi je dois faire. Donc on est dans une culture de l'individualisme. Et donc le Dieu aujourd'hui, le Dieu, c'est tu peux tout faire. Je vais te donner les moyens d'y arriver. Donc dans les écoles, je crois que Sonia doit le savoir, l'école de team building, de commerce et tout ça, on vous dit, voilà, on va vous donner une formation pour que vous puissiez entrer dans vos moyens, hein, tous les moyens, on va les développer, mais sans Dieu. Parce qu'on compte pas sur la grâce, vous priez pas tous les hein, chaque cours, voilà. Donc, voyez, on pousse maintenant les gens à sortir tout le potentiel qu'ils ont, mais sans Dieu, avec la force. Pas étonnant que au bout d'un certain temps, vous craquez, hein, vous craquez, hein, et vous pouvez pas vous en sortir. Et donc aujourd'hui, bien sûr, il y a le stress au travail, il y a tout ce que vous connaissez, même des suicides au travail. Parce que ce Dieu, c'est bien de croire en soi, c'est bien de croire dans ce que j'ai reçu comme talent de Dieu. Mais de les pousser à ce moment-là, voyez-vous, quelque chose de bien devient une idole. Et alors là, on est esclave de cette idole. Et on est esclave parce qu'on est obligé de la servir. On ne peut plus s'en sortir et c'est le principe de l'idole. Dans les pays en voie de développement, c'est vrai que c'était le cas de l'Occident au Moyen-Âge et avant, etc., quand on a des besoins fondamentaux, manger, simplement subvenir à son existence, c'est des besoins fondamentaux. Ces besoins fondamentaux, avant la science, c'est vrai qu'on ne savait pas. Comment venait la pluie, comment venait tout ce qui permettait à la vie de subvenir. Donc on imaginait des dieux, le dieu soleil, le dieu de la pluie, le dieu du tonnerre et tout ça, et on attribuait à ces dieux des pouvoirs qui donnaient la pluie, qui donnaient le soleil, qui donnaient tout ça, le vent, la fécondité du sol et tout ça, et donc on l'adorait. En tout cas, on essayait d'être favorable à ces dieux pour que on puisse avoir les récoltes. Hein, quand on vit de la terre, hein, encore 50 ans, en France, il y avait beaucoup plus de cultivateurs qu'aujourd'hui. On a tous encore dans nos pensées des personnes qui cultivaient le sol. Eh bien, on est tributaire, bien sûr, de ce qui nous entoure pour subsister. Et donc, tous ces dieux ont été matérialisés par les Baals, les Astartés qu'on voit dans la Bible. Mais à partir du moment où, bien sûr, on a expliqué comment se faisait le tonnerre, comment se faisaient tous ces phénomènes naturels, eh bien, on passe à un deuxième stade, qui est un stade plus profond, le stade de l'âme. Là, c'est le stade du corps, on a besoin de manger, sinon on meurt. Ensuite, après, une fois que ces premiers besoins eh bien, sont satisfaits, on a d'autres besoins. Mais ces autres besoins, souvent, ne peuvent pas se manifester tant que les premiers ne sont pas... Vous n'allez pas penser à votre bonheur, à aller aux îles Seychelles, si déjà vous êtes en train de mourir sur place, vous voyez, pour votre bien-être physique, aller dans un spa, un sauna, etc., voilà, de vous faire du bien. Voilà. Donc, vous voyez, les deuxièmes niveaux, c'est quand vous avez tout ce que vous voulez sur le plan matériel. Et les gens cherchent aujourd'hui d'avoir toutes les choses sur le matériel pour aller au deuxième niveau, pour être zen, comme on dit, hein, etc. Et donc là, ce sont les idoles de l'âme. Et ces idoles de l'âme, c'est je recherche le bonheur. Donc on vous promet le bonheur. Donc on vous vend des affiches, on vous vend de la publicité pour que vous soyez heureux. Hein, vous soyez heureux, que vous soyez épanouis. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les gens sont plus épanouis qu'il y a 50 ans ? Non ? Oui ? Regardez vos parents. Est-ce qu'ils étaient malheureux ? Bon, c'est vrai qu'ils sortaient de la guerre, en tout cas pour les miens, et ils étaient traumatisés, c'est vrai. Mais moi, je les trouvais heureux dans ce qu'ils avaient. Aujourd'hui, il y a un sentiment d'insatisfaction parce qu'on n'en a jamais assez. Donc vous voyez, ces deuxièmes niveaux de désir, ce sont des désirs qu'on a, eh bien ça devient des idoles. Parce qu'on a envie de les avoir. Même si on n'en a pas besoin, on a envie de les avoir. Ça, c'est le principe de l'idole. Et c'est pourquoi ces idoles ne sont pas forcément matérialisées dans des statues, mais sont matérialisées toujours dans des représentations de bonheur. Voyez-vous, les stars. Pourquoi tous ces films qui font rêver, que ce soit les jeunes hommes ou les jeunes femmes, dans différents modes d'expression, on veut le ressembler. Ça amène pour les filles de l'anorexie, des choses parce que ces femmes-là n'existent pas réellement. Hein. La plupart du temps, elles se suicident d'ailleurs parce qu'elles sont malheureuses. Mais ce sont des images qu'on veut donner aux gens comme des images de bonheur, comme des images d'accomplissement de soi. Et tout ça, ça représente aujourd'hui des idoles. Dans l'Antiquité, dans l'Ancien Monde, c'était des idoles externes, et maintenant, ça devient des idoles internes. Mais dans tous les cas, on est esclave de ces désirs. La célébrité, la réussite, hein, le succès, la beauté, l'approbation, on a besoin d'être approuvé, hein, pour continuer, le pouvoir, hein, et la culture. Tous ces désirs, hein, au plus profond de nous, qui peuvent se manifester parce que l'aspect matériel est pourvu, eh bien, deviennent des idoles. Nous avons vu certaines idoles jusqu'à présent. Donc, la première idole qu'on a étudiée dans ce sens, c'est l'enfant roi. L'enfant roi. Aujourd'hui, c'est l'enfant roi. Je crois que c'est vrai aussi en Chine, aussi en Corée. Bon, c'est pas spécifique à la France. C'est l'enfant roi. Hein. Donc, l'enfant, il est roi, il fait ce qu'il veut, on lui donne tout, voilà, et on veut plus lui transmettre les valeurs et tout ça, parce que, voilà, c'est l'enfant roi. Eh bien, Abraham est tombé dans ce panneau, déjà. Voyez, donc, on a étudié le personnage d'Abraham. Et quelle était son idole de l'enfant roi ? Pardon ? Quelle était son idole, Abraham ? Hein, c'est le personnage de la foi, hein, pourtant. C'est le père de la foi. Hein. Pourtant, il avait une idole. Et comme quoi, c'est pas incompatible d'être chrétien, d'avoir des idoles. Ça, c'est le même problème que la délivrance. Il y a des chrétiens, il y a une dizaine d'années, une vingtaine d'années, ils ne pouvaient pas comprendre qu'on pouvait avoir une influence démoniaque dans nos vies et être chrétien. Ça, c'est un autre sujet. Mais là, c'est pareil. Les chrétiens, on a tous des idoles. Et pourtant, on peut être chrétien. C'est pas dramatique, mais seulement il faut traiter la chose, comme dirait le médecin. Hein. Il faut traiter le virus, là. Donc, je reviens à Abraham. C'était quoi son idole ? Pardon ? Lequel ? Parce qu'il en avait deux. Il en avait deux. C'était Isaac. Et comment s'est produit cette idole dans son cœur ? Pourtant, c'est un homme de foi. Pardon ? C'est à cause de la promesse. Donc c'est à cause de Dieu. Attention, là tu accuses Dieu. Bon, vous écouterez le message, c'est enregistré, c'est date de 6 mois. Juste pour le résumer en quelques mots, tout simplement parce qu'il était... Parce qu'il est humain. Abraham est humain. Hein. Il n'y a que Jésus qui était humain et qui n'a pas péché. Okay. Donc, ça, mettez-vous ça dans la tête. Tous nous péchons, y compris Abraham a péché. Et là, il a péché simplement ce qui était humain, qui était fragile, qui n'était pas divin. Et qu'il s'est tellement attaché à la promesse que quand elle est venue, il s'est attaché à le résultat de la promesse, à Isaac, voyez-vous. C'est pour ça qu'il faut être très, très modeste, très humble en tant que chrétien. C'est pas parce que voilà, j'ai remporté une grande victoire. Regardez Élie, il a remporté une grande victoire au Mont Carmel, et puis il y a juste une femme qui lui dit toi j'aurai ta peau, et hop, Élie, le grand Élie, il était dans le désert en disant Seigneur, voilà, je veux la mort, quoi. Voyez-vous ? Alors que c'était juste une femme qui l'a, alors qu'il venait de remporter la victoire avec 950 prophètes de Baal et d'Astarté. Voyez-vous, on est fragile. On est fragile. Et Abraham était fragile. Parce qu'il a attendu cette promesse, et très souvent, quand on a une victoire spirituelle, on craque. Voyez-vous ? Parce qu'on lâche notre attention. Voyez-vous ? Il faut être attentif jusqu'au bout de notre vie. Hein. Jusqu'à la fin de nos jours, il faut être attentif aux idoles. Et il est tombé dans l'idolâtrie de son fils. Il s'est tellement attaché à son fils, parce que c'était par là que passerait la promesse. Voyez-vous ? Dieu lui a dit, « Je te ferai le père d'une multitude de nations. » Et il est le père aujourd'hui de l'Église aussi, des croyants. Vous voyez. Donc cette promesse-là, bah, il voulait que ça se réalise. Donc c'est une bonne chose. L'idole, c'est toujours une bonne chose poussée trop loin. C'est ça le problème. Si l'ennemi ne peut pas vous faire chuter, il vous pousse plus loin dans votre ministère, dans votre consécration. Vous voyez, c'est ça le problème du piège. C'est pour ça qu'il faut être entouré de frères et sœurs qui disent « Attends, là, tu vas trop loin. » Et il faut écouter. Et ça, c'est très, très difficile, surtout quand vous avez du succès. Du succès, là, paf, vous partez en flèche et c'est fini. L'ennemi, il vous suit, comme là, le voleur dont j'ai parlé, il était habillé en costard-cravate et tout ça. « Je vais vous donner un coup de main. »« Ah oui, merci. Tiens, volez-moi tout. Je vous remercie. » Vous voyez. Et là, il a été piégé, Abraham. Parce qu'il était tellement heureux d'avoir un fils de la promesse de sa femme, de Sarah, qui ne pouvait pas avoir d'enfant, qu'il s'est attaché à son fils. Il s'est attaché parce qu'il savait que c'est par lui que la bénédiction allait arriver. Et Dieu a dû le guérir de cette idolâtrie en lui demandant son fils de le sacrifier. Tu sacrifieras ton propre fils. Voyez-vous, il a été guéri de l'idole à partir du moment où lui-même s'est sacrifié, ses sentiments ont été sacrifiés, sa manière de penser a été sacrifiée, la représentation qu'il avait de cette promesse pour son accomplissement a été sacrifiée. C'est là que Dieu est intervenu par l'ange en disant « Non, j'ai pourvu au sacrifice. » Amen. Deuxième enseignement qu'on a vu de l'idole, c'est l'idole de la beauté physique. Wow. En ce moment, en beauté physique, hein, on met le paquet, hein, dans la pub, dans, voilà, etc. Mais Jacob a été un idolâtre de la beauté physique. De qui ? De quelle ? Parce que c'est pareil, il y a beaucoup de femmes, hein, dans l'Ancien Testament. Alors ? Rachel. Il est dit que Léa avait un petit problème physique, on ne sait pas ce que c'est, on pense qu'elle louchait. Bon, la Bible est très, 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 très pude là-dessus. Elle dit un mot, les rabbins pensent que c'est qu'elle louchait. Alors, une fille qui louche, bon, c'est vrai que pour quelqu'un qui recherche la beauté physique, c'est un défaut majeur, hein. Voilà. Et donc Rachel a vraiment, il a eu le coup de foudre, quoi. Jacob, quand vous lisez la parole de Dieu, vous voyez vraiment, il était dans un état de transe, quoi, par rapport à cette fille-là, tellement elle était belle, voilà. Et qu'est-ce qui lui est arrivé ? Ben, Laban lui file Léa, le jour des noces. Il découvre que c'est Léa. Voilà. Le problème, c'est que Jacob a continué à s'attacher à Rachel. Parce qu'il a eu, bon, il a travaillé 7 ans, il était accro, hein. Il a eu, donc il y avait 2 femmes, et il a continué à s'attacher à Rachel. Et qu'est-ce qu'il a fait? Cette idolâtrie a fait quoi dans la vie de Jacob? Ben, il n'a eu que des problèmes. Que des problèmes familiaux. Des problèmes où les enfants ne se sont pas entendus, les femmes ne se sont pas entendues. Voilà, il y a eu de la jalousie. Parce qu'en plus, vous savez, Dieu nous teste. Hein, Dieu teste nos idoles. Et donc, en fait, il a donné des enfants à Léa et pas Rachel. Donc, voilà, les femmes commençaient à se disputer, tout ça. Enfin, bref, je vous passe les détails. Puis imaginez le reste, et puis vous avez la parole de Dieu pour la lire. Et donc, et Jacob, ça ne l'a pas guéri pour autant. Quand est-ce qu'il a été guéri de cette idolâtrie de Rachel? Parce que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des guérisons. C'est qu'il y a des délivrances. C'est qu'il y a une possibilité de s'en sortir de ces idoles. Hein. Elles sont là, mais le Seigneur donne des stratégies pour nous en débarrasser. Et c'est ça qu'il faut qu'on apprenne. Amen. Quand est-ce qu'il a été délivré de son idolâtrie, de la beauté de Rachel, beauté physique? Sa Péniel. Péniel. Péniel, ça veut dire face de Dieu. C'est quand il a vu la face de Dieu, quand il a lutté avec l'ange, qui était une manifestation de Dieu, c'était Jésus, il a lutté avec lui, et il ne l'a pas lâché parce qu'il voulait la bénédiction. Et l'ange lui a déboîté la hanche avant de partir, c'est tout un message, mais c'est à ce moment-là, parce qu'il a vu Dieu en face, et il a lâché ses idoles. Troisième idole qu'on a vue, qui est une idole aussi de représentation mentale, c'est l'approbation, chercher l'approbation. Est-ce que vous cherchez l'approbation de Dieu ou l'approbation des hommes? Alors? Oui, vous êtes gentil, mais dans la pratique. Ah, tout le problème est là. Ouais. On dit Dieu, oui, le dimanche matin, au culte, c'est super, c'est Dieu, ok. C'est plus compliqué que ça. On cherche l'approbation des hommes. Ceci étant, c'est important de donner l'approbation, parce que un père, par exemple, il approuve ses enfants et il leur donne son identité en les approuvant. Donc c'est une bonne chose. Une fois de plus, c'est une bonne chose poussée trop loin qui devient une idole, voyez-vous. C'est pas les bonnes choses en soi qui sont des idoles, attention. Attention. C'est les bonnes choses poussées trop loin avant Dieu. Exactement. Et c'est de ça que le Seigneur veut nous guérir, pour qu'on s'attache à Dieu seul et pas aux idoles. Premier commandement. Attache-toi à Dieu seul. Alors, quelle était la personne qui voulait cette approbation maritale? C'est ce qu'on a vu au troisième message sur les idoles. Léa. Pourquoi Léa voulait l'approbation de son mari? Il voulait l'approbation de Jacob. Jacob avait deux femmes. Rachel, on en a parlé, et Léa. Léa était méprisée parce qu'elle louchait. Enfin, vous gardez ça pour vous parce qu'on ne peut pas l'affirmer, mais voilà. Bon, c'est juste pour montrer qu'il y avait un problème physique qui faisait d'elle qu'elle était méprisée. Bah, son environnement, dans son école, dans son machin, par son père. Parce que son père a dit, bah, je ne peux même pas la vendre à quelqu'un, pas de dot. Enfin, vous voyez, elle était exclue de tout. Donc elle souffrait, cette femme. Et son mari, Jacob, l'a fait souffrir aussi, puisqu'il aime Léa et pas Rachel et pas Léa. Donc Léa, qu'est-ce qu'elle fait? Elle compense. Elle cherche l'approbation de son mari. C'est son mari. C'est le premier qu'elle a épousé. Donc c'est normal qu'elle cherche l'approbation. Le problème, c'est qu'elle le cherche tellement, alors que Jacob n'est pas prêt à le donner, puisqu'il est idolâtre de Rachel, vous voyez. Et, comme quoi, si vous attendez des hommes, vous serez déçus. Il faut s'attendre de Dieu. Donc il fallait qu'elle se détourne de l'attente de l'approbation de Jacob, qu'il a reçu plus tard, parce que quand Jacob était guéri, il s'est occupé de Léa. Mais en attendant, il faut qu'elle, elle soit délivrée de l'idolâtrie qu'elle avait, elle, dans son cœur, par rapport à l'attente de l'appréciation de l'appréciation de Jacob. Et quand est-ce qu'elle a été guérie? Quand est-ce qu'elle a été libérée de son idolâtrie? Pardon? J'entends plus. Oui, mais concrètement. Ce qui m'intéresse, c'est le concret. Parce que si on n'est pas concret, on n'a que des pensées théologiques très vagues. Oui. Voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire, Judas ? Louange à Dieu. Avez-vous, on le sait par le nom des enfants. Ouais, c'est comme ça qu'on lit la Bible. Parce que à l'époque, le nom des enfants, c'était pas un nom qu'on cherchait dans le dictionnaire, quel est le nom qu'on va donner. C'était un nom qui avait un sens. Et tous les enfants, je crois que Judas c'était le quatrième ou le cinquième, ouais, tous les enfants qui précèdent, on voyait qu'elle exprimait, dans le nom des enfants, elle exprimait une attente de l'approbation de son mari. Par rapport, on le voit dans le nom de l'enfant, et puis dans d'autres détails. Il n'y a que à Judas, quand elle en avait marre, quand elle voyait que ça ne se passait pas comme elle voulait, quand elle voyait que Jacob continuait pas du tout à changer d'attitude vis-à-vis d'elle, elle s'est tournée vers Dieu, elle dit « Celui-là, je l'appellerai louange à Dieu. » Amen. Et c'est là qu'elle était guérie. Parce qu'elle ne s'attendait plus à ce que son mari lui donne ce qu'il n'allait pas lui donner, parce qu'il n'était pas capable de le faire, et l'attendait de Dieu. Et là, elle était guérie, ça avait été changé. Amen. Autre idole, l'argent. Comment est-ce que, quel était le personnage qu'on a étudié de l'argent ? Zachée. Vous vous rappelez l'histoire de Zachée ? Dans son petit sycomore, là. Qu'est-ce qu'il était, Zachée ? Collecteur d'impôts. Et qu'est-ce qu'il faisait ? C'était même pas un simple collecteur. C'était le collecteur de toute une province. C'était le chef des collecteurs. C'était pas un simple larbin. Hein. Il avait une responsabilité, une autorité. Il pouvait commander des choses. Qu'est-ce qu'il faisait, ce petit Zachée ? Il s'en mettait plein les poches. Eh oui, il faut dire les choses comme elles sont. Et largement. Largement. Parce qu'il avait un pouvoir de coercition sur les citoyens. Si, je vous dénonce aux Romains. Ceci, cela, voilà. Et lui, il avait piscine, il avait tout ce qu'il voulait. Il nageait dans le bonheur, il est à sa Rolls Royce et tout. Voilà. Zachée était idolâtre de l'argent. Il était cupide. Et qu'est-ce que dit la Bible de la cupidité ? Vous connaissez Galates ? C'est une idolâtrie. C'est mentionné comme une idolâtrie. L'argent, mammon, qui aujourd'hui est le premier vecteur de notre culture du monde, puisque ce n'est plus les politiques qui gouvernent, c'est les banques, c'est mammon. C'est mammon. Et Zachée était en prise avec cette idole. Et cette idole, quand vous êtes pris par cette idole, elle ne vous lâche pas. Elle ne vous lâche pas. Nuit et jour, vous êtes poussé par cette idole. C'est ça le problème de l'idole. C'est que vous êtes esclave de cette idole qui demande des comptes, quoi. Et demande à ce que vous la serviez. Et Zachée était comme ça. Et il a été guéri. Parce que il a adoré le Seigneur. Jésus, il a reçu le salut dans sa vie et il en a été délivré. L'idole du succès. On l'a vu aussi, l'idole du succès. Quel était le personnage qu'on a étudié qui avait une idole du succès ? Succès aujourd'hui, hein, c'est quelque chose d'important. J'ai encore vu une personne hier hein, qui. Ses quatre enfants sont très 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 bien placé, ingénieur, architecte et tout. Mais la mère a dit, ça ne donne rien quand ils viennent, ils sont avec leur ordinateur, on ne peut même plus parler, quoi. Ils continuent le boulot, voilà. Vous voyez, plus de famille, rien, quoi. Pourquoi ? Parce qu'il y en a d'autres qui attendent derrière, qui veulent prendre le boulot, donc il faut être les meilleurs, etc. Bon, le succès. Hein, l'idolâtrie du succès, c'est voilà, il faut être quelqu'un du succès. Il faut être le meilleur. Il faut être le meilleur parmi les meilleurs pour pouvoir s'en sortir. Qui avait ce problème d'idolâtrie ? Alors ? Vous ne rappelez plus ? Pardon ? Madonna. Avec elle. C'est vrai. Non, c'était Naaman. Enfin, c'était le personnage de Naaman. Alors, c'est moins connu, hein, Naaman, mais c'était un grand général. Vous savez, à l'époque, être général, vous n'étiez pas derrière un canon ou derrière des contrôles par ordinateur, hein, c'est parce que vous aviez du succès, hein, c'est que vous étiez le meilleur au niveau de la force, vous pouviez chevaucher, vous pouviez, voilà, enfin, des athlètes, quoi. Hein, c'était des athlètes, hein, à l'époque. Bon. Donc il avait du succès. C'était celui qui gouvernait à côté du roi de Syrie, du, voilà, du... et donc, c'était le personnage clé, quoi. Et lui, il pensait que le succès allait lui ouvrir la porte. Comment est-ce qu'on le sait qu'il était idolâtre de son du succès, de l'idole du succès? Alors, quels sont ceux qui se rappellent l'histoire? Voilà, alors ça c'est, ouais, ça c'est vrai, mais avant ça, on le sait parce que il savait qu'il y avait un prophète en Israël qui pouvait, par la prière, lui permettre d'être guéri de sa lèpre. Imaginez un général qui est pris par sa lèpre. Normalement, un lépreux, il n'a plus le droit d'être. Il doit quitter. Donc, tout son succès était fini. Donc, il savait qu'il y avait un prophète. Mais est-ce qu'il est venu voir le prophète? Voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi n'est-il pas allé voir le prophète qui pouvait le guérir? Et pourquoi est-ce qu'il est allé voir le roi d'Israël? Pardon? Voilà. Alors d'une part, à l'époque, comme aujourd'hui aussi d'ailleurs, hein, c'est toujours pareil, le succès est toujours pareil, vous voyez les grands. Les grands voient les grands. Okay. Ils vont pas voir le petit. Vous voyez, je sais pas, vous avez un premier ministre qui vient du Togo, voilà. Il va pas aller voir le bureau le postier, lui dire, tiens, il faut que j'envoie ma lettre, tu le postes. Hein. Il va voir un général, dit, bon, vous savez, vous me faites ça à ma place. Bon, ils ont l'habitude de commander ces gens-là. Okay. Donc, de cette notion de succès vient le fait que lui, il va aller voir le roi d'Israël et lui dit, bon voilà, je sais que tu es un prophète, je voudrais le rencontrer, donc tu m'ouvres les portes pour que je sois guéri, etc. Vous voyez, il utilisait son succès comme un moyen d'entrée de pouvoir. Il utilisait ce pouvoir en disant, moi qui suis général, je m'adresse à toi, vous voyez. Et qu'est-ce qu'il dit le roi d'Israël? Voilà. Il déchire ses vêtements, il dit, mais qui suis-je? Mais qui suis-je, moi? Vous voyez, et il ne s'est pas rendu compte qu'en Israël, les choses ne marchaient pas comme en Syrie. Heureusement, ce roi-là, il a reconnu ses limites et il a dit, mais attends, pourquoi tu viens me voir, moi? Vous voyez, là, il a pris sa douche. Mais c'est là qu'on voit qu'il était pris dans son idole de succès, dans sa pensée, parce que l'idole provoque en vous des pensées. Des schémas de pensée, des visions, des manières de faire les choses. Et on ne peut pas s'en défaire, on est obligé de les suivre. Voyez-vous ? Quand il y a une idole qui est derrière un schéma de pensée, on est esclave de ça. Et lui, il était esclave de ça. Et donc, il a été remis en place. Il a dit, bah, écoute, tu vas le voir tout seul. Ce prophète, moi, je le contrôle pas. Parce que les grands, ils pensent, et ils le font d'ailleurs, que tout le monde est contrôlé. Ouais. Contrôlé par l'argent, contrôlé, il y a un dessous de table, voilà, hop, tu me fais la guérison, et puis je te passe, voilà. Voilà, en plus. Vous voyez. Donc, vous voyez tous ces schémas de pensée qui font que Dieu ne fonctionne pas comme ça. Nous avons un Dieu où nous pouvons avoir un accès direct par le sang de Jésus. Vous voyez. On n'a pas besoin de passer par des intermédiaires, on n'a pas besoin de prêtres. Nous sommes tous des prêtres. Nous avons tous accès au tabernacle, au cœur de Dieu, pour recevoir les bénédictions. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Donc ne passons pas par des idoles. Arrête. Pardon ? Exactement. Exactement. Voilà. Parce que l'idole ne peut rien faire, ne peut que nous emmener dans les décors et de nous emmener loin de Dieu. Et Dieu est jaloux. Dieu est jaloux de cette relation qu'il a avec nous. Et il veut que nous soyons un avec lui, que nous l'aimions de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme. C'est ça qu'il veut, parce qu'il veut nous préserver des idoles. Il veut nous éviter de nous attacher à des choses vaines qui vont nous faire du mal. Et donc Naaman, comment est-ce qu'il a été guéri de cette idole? Comment est-ce qu'il a été guéri de cette idole? À quel moment est-ce qu'il a été guéri? Je vous écoute? Oui. Oui, ça c'est la conséquence. La petite fille. La petite fille qui était là. Alors là, c'est la grâce. Là, c'est la grâce. Parce que la petite fille, en fait, elle, il l'a volée. Elle était esclave. Il l'a volée. Elle aurait pu dire, ce maître, il peut mourir dans sa lèpre. Elle, elle a manifesté la grâce. C'est toute une histoire qu'il faut raconter sur cette petite fille. Et cette petite fille a dit, mais mon maître, si tu avais demandé des choses difficiles, tu l'aurais fait. Mais là, il te demande une chose simple. Simplement te baigner cette fois dans le Jourdain, tu seras guéri. Et c'est quand il a accepté, quand il est devenu humble dans l'humilité, qu'il a accepté d'enlever son aura de général, son aura du succès, et accepter qu'une humble fille esclave lui donne un conseil qu'il le suive, il a été guéri. L'humilité. L'humilité nous amène à être délivrés de l'idolâtrie. Amen. Aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler d'une autre idole, qui est l'idole du pouvoir politique. Mais je n'ai pas le temps. Alors, qui est-ce qui avait cette idole dans son cœur, d'après vous? L'idole du pouvoir politique, je ne pense pas. Je ne pense pas. Si vous venez dans 15 jours, parce que dimanche prochain, on a un invité, par la grâce de Dieu, je prêcherai là-dessus. Pardon ? Qui avait, entre autres, hein, je n'ai pas regardé tous les personnages de la Bible, hein, j'en connais un, mais il y en a d'autres, qui avait l'idole ? Oui, ça c'est vrai. Mais celui qui est décrit dans la Bible, qui nous permet de décortiquer cette idole et de voir comment il était guéri et comment est-ce qu'il faut faire pour ne pas tomber dans cette idole politique. Oui, Saül, tout à fait, tout à fait. Quelqu'un d'autre, un autre personnage aussi? Très bien. Alors, certains l'appellent Nabuchodonosor, d'autres Nebuchadnezzar. Je crois que Nabuchodonosor, c'est plus vrai, c'est plus proche de ce nom, parce que... Nabuchodonosor, ça veut dire quoi? Ou Nebuchadnezzar? Nebu ou Nebo, ça veut dire... C'est un dieu. C'est le dieu de la sagesse. Nebo, il était adoré... pour sa sagesse. Et quel est le dieu qui est adoré en France pour la sagesse? Pardon? Marianne? C'est un peu plus compliqué, Marianne, mais un dieu qui est sur le fronton de l'Assemblée nationale du Palais Bourbon, qui est l'idole de la sagesse. Vous voyez, comme quoi on a des idoles, hein, même en statut, même pour la République française. Vous n'avez jamais vu sur le fronton du Palais Bourbon? Pourtant, c'est visible. Je sais que David le sait parce qu'on a fait un jeu de mots. Il a fait un jeu de mots là-dessus. Ouais, tu as dit, elle m'énerve. C'est Minerve. Elle m'énerve, celle-là. Voilà. Quand on a passé devant, voilà. Je leur ai montré, je dis, vous voyez, ça c'est l'idole de la sagesse en France. C'est Athéna Minerve. Celle qui porte un casque avec la gorgone dessus, vous voyez, c'est le principe de la raison et qui gouverne nos politiques, nos députés pour prendre leurs décisions. C'est pour ça que toutes les décisions ne sont pas bonnes, décisions politiques, parce qu'elles sont contrôlées par cette puissance nationale. Peu importe. Juste pour revenir sur Nebuchadnezzar, Nebo, c'était à l'époque, dans tous les pays, il y a l'idole de la sagesse. Hein, c'est Nebo en Mésopotamie, c'est Hermès en Grèce, c'est, je ne sais plus, en Égypte, quel est le nom, je ne me souviens plus. Et ça veut dire, Nebuchadnezzar, ça veut dire Nebo garde mes frontières. Ça veut dire qu'il le roi lui-même, de Babylone, eh bien, il faisait confiance à cette divinité pour qu'il garde les frontières de son pays. jour où les frontières éclatent, vous voyez, et c'est ce qui s'est passé, puisqu'après, c'est la Perse qui a envahi Babylone. Au moment où Daniel était là, il y a Cyrus, qui est le roi de Perse, qui est venu et qui a donné la liberté au peuple. Mais auparavant, ce roi, il est passé par une drôle d'histoire pour être délivré de son idole de pouvoir politique. Qu'est-ce qui est arrivé? Il est devenu fou à tel point qu'on n'a même pas pu le garder dans le palais présidentiel. On a dû le mettre dans les champs parce qu'il y a des ongles qui sont... Voilà, il est devenu complètement fou, complètement débile, une bête. C'est devenu une bête. Et lui-même, il dit... Et par deux fois, hein, Dieu l'a prévenu deux fois. Hein. La première fois, il n'a pas compris. La deuxième fois, il est devenu une bête. Et lui, il a dit, pendant qu'il était dans ce pot de bête à l'extérieur, où la pluie descendait sur lui, les intempéries et tout ça, il a dit, à un moment donné, il a tourné ses yeux vers Dieu et il a glorifié Dieu. Parce que quand ça lui est arrivé, il est allé sur son palais à Babylone. Il a dit, moi, j'ai fait tout ça. Moi, j'ai construit tout ça. Et Dieu l'a frappé. Et c'est quand lui a retourné ses yeux vers Dieu en disant, je te bénis, Seigneur, pour ce que tu es. C'est là qu'il a été rétabli. Là, il a été délivré. Bon, on verra ça la prochaine fois. C'est l'idole du pouvoir politique qui aujourd'hui sévit encore. Il n'a pas disparu. C'est quelque chose qui naît dans le cœur. La capacité, le pouvoir de contrôler les choses, de contrôler au niveau d'une nation, de diriger les choses, de prendre autorité, de toutes ces choses qui atteignent le pouvoir politique, mais aussi à notre niveau. Vous voyez, il y a des hommes, par exemple, qui ont autorité sur leur famille, bah, ça leur prend. Hein. Ils deviennent machos. Vous avez entendu ça? Machos, voilà. Comme si la femme était à son service. Non. Hier, on a entendu, d'ailleurs, le pasteur l'a dit, hein, c'est un vis-à-vis. La femme, c'est un vis-à-vis. C'est pas une serpillière. C'est pas, vous voyez, c'est pas, il n'y a pas les machos et puis les féministes. Vous voyez, donc, chacun peut prendre du pouvoir politique. Politique, ça veut dire gérer sa maison, gérer ses choses. Donc le Seigneur veut nous apprendre à être libérés des idoles qui prennent le dessus sur nous, que son nom soit béni. Amen. Seigneur, nous te remercions parce que, Seigneur, c'est vrai que nous t'avons comme sauveur et Seigneur, mais nous voulons aussi être libérés, Seigneur, de toutes ces idoles qui naissent dans notre cœur, qui, Seigneur, nous amène à nous confier en elles et aussi ensuite à être esclaves de ces idoles. Nous voulons en être délivrés, débarrassés, comme l'ont été ces personnages que tu nous décris dans ta parole et qui ont eu la victoire, Seigneur, parfois dans la difficulté. Seigneur, nous te demandons que tu nous aides à nous en débarrasser avant les difficultés, que nous puissions être libres et, Seigneur, vivre une vie d'adulte, Seigneur, une vie, Seigneur, où nous confions totalement en toi, Seigneur, sans attendre les difficultés, mais en le faisant, Seigneur, de manière préventive, Seigneur, pour que nous puissions être des témoins de ta grâce, des témoins de ta puissance, des témoins, Seigneur, de ton esprit en nous, Seigneur, parce que tu nous demandes de marcher par l'esprit et non pas par la chair. Seigneur, merci, parce que, Seigneur, tu nous as donné vraiment une victoire extraordinaire en Jésus-Christ, et nous voulons la saisir, Seigneur, dans chacune de nos vies. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.